Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme, ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme.
Ophélie Cohen, quel que soit le prisme sous lequel on regarde votre vie, on y voit exemplarité, résilience et optimisme. Depuis vos débuts au sein de la police nationale, vous avez passé régulièrement des examens professionnels et concours, à chaque fois avec succès, pour continuellement évoluer. Vous avez travaillé au sein de différents services et c'est certainement cette expérience qui donne une dimension si réelle à vos deux romans, Héloïse et Suspicion. Sur le plan personnel, vous n'avez pas été épargné puisque vous avez dû affronter de graves problèmes de santé et faire face au harcèlement subi par votre fils. Pourtant, vous semblez avoir la positivité chevillée au corps. Aujourd'hui, votre troisième roman est en cours d'écriture. Vous avez plus de 20 ans de carrière au sein de la police nationale. Vous êtes officier de police judiciaire en Isère, à Vienne, en tant que numéro 3 de la sûreté urbaine. Vous intervenez aussi bien sur les délits routiers que des trafics de stupéfiants ou encore des homicides. Ophélie, bonjour.
Bonjour Clémence et bienvenue en Isère.
Merci. Pour vous, intégrer la police nationale, ça a toujours été un rêve, une vocation ?
C'est devenu une vocation vers l'âge de 16 ans. Avant, je voulais être journaliste, ce qui n'avait rien à voir avec la police. Mais mon papa étant policier, mon grand-père étant policier, c'est devenu comme une évidence à partir de l'âge de 16 ans à peu près. Comme j'étais souvent en conflit avec mon papa, on se disputait beaucoup. Je me suis orientée vers cette carrière qui était aussi un moyen pour moi de me rapprocher de lui, je pense.
Vous vous souvenez d'un élément déclencheur ?
Non, je l'ai pas en mémoire. Je me souviens juste de la fois où je suis allée voir le service de recrutement de la gendarmerie avec mon papa, justement, puisque j'avais dit ce sera les forces de l'ordre, et où on m'a dit « mais vous êtes trop jeune et en plus vous êtes une femme ». Donc j'ai dit « bah, tant pis pour vous, j'irai dans la police nationale ».
On vous a répondu « vous êtes une femme ».
C'est ce qu'on m'a répondu et j'étais pas encore en terminale, donc ça doit être aux alentours de 1998.
Ça vous a reboosté ?
J'ai toujours été boostée. C'est pas ça qui m'a reboostée. Par contre, il était clair dans ma tête que jamais je ne serai gendarme et je serai policière.
Vous pouvez me retracer votre parcours au sein de la police nationale ?
Alors, j'ai eu le concours de gardien de la paix en 1999, la même année que mon bac. Cette année-là, j'ai obtenu également mon intégration à l'IUT carrière juridique de Roubaix, puisque j'avais postulé pour cette IUT et j'envisageais d'être officier. Officier, à l'époque, c'était bac plus 2. Et puis, finalement, je me suis dit non, je commencerai par la base. Je serai gardien de la paix, donc j'ai intégré l'école de police de Vannes. J'en suis sortie en 2001. J'ai commencé en Eure-et-Loire, en police secours. Du classique, avant de retrouver Lille, qui était ma région natale. J'ai évolué dans différents services, je suis repartie à Paris, et j'ai atterri en Isère au mois de septembre pour rejoindre mon compagnon. Pendant ces 23 années de carrière, je suis passée de gardien de la paix à major de police aujourd'hui.
Et pendant ces 23 années, vous avez traversé plusieurs services, que ce soit stup, investigation, brigade des mineurs. Est-ce qu'il y a un service qui vous a plus touché qu'un autre ?
Alors les mineurs, forcément. C'est vraiment le service dans lequel je me suis dit « je sais pourquoi je fais ce métier-là ». C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je pense aux mineurs, parce que quand on rend le sourire à un enfant qui est victime, qui rentre dans votre bureau complètement fermé et traumatisé, et qu'il en ressort avec ce petit sourire qui veut dire « merci, vous m'avez entendu », ça n'a pas de prix, ça vaut tous les merci du monde. Donc c'est vraiment le service qui m'a le plus plu, dans lequel je me suis sentie le plus utile, parce que on est présent et parce que c'est une autre facette du métier. Quand on parle de policier aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les médias, on voit le côté répressif. Mais la police, ce n'est pas que de la répression. C'est aussi de l'accompagnement de victimes, c'est de l'écoute de victimes. C'est la répression, certes, sur les mises en cause, mais c'est être là pour les personnes qui ont besoin de nous. Ce n'est pas que faire des manifestations.
Et c'est justement ces services-là, ce n'est pas difficile émotionnellement ? Comment on se protège ?
La question, elle est difficile parce que je ne me suis pas protégée. Je suis arrivée en brigade des mineurs, j'avais à peine 23 ans. Donc j'avais pas beaucoup de police non plus, hein, j'avais pas beaucoup d'ancienneté. J'étais pas prête à affronter ce que j'ai affronté. J'y ai fait environ 3 ans et à l'époque je n'étais pas maman. Et heureusement, parce que je pense que je l'aurais vécu beaucoup plus mal. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en brigade des mineurs, il va faire des stages, il va faire des formations, il va être mieux préparé à accueillir la parole de la victime. C'était pas mon cas à l'époque. Donc ma jeunesse, mon manque d'expérience ont fait que je suis rentrée une paire de fois en pleurant chez moi, parce que j'emmenais mes victimes avec moi. Quand on sort du commissariat, on dépose pas le sac à la porte en disant oh, les victimes, elles y restent. Non, elles sont toujours avec nous.
Et maintenant que vous êtes mère, vous pourriez plus le faire ?
Je pense que je pourrais le refaire quand Gabriel sera encore plus grand. Maintenant qu'il a 16 ans et demi, je pense que je pourrais y retourner. J'ai plus d'expérience, plus de sagesse. Je suis mieux protégée psychologiquement aussi. Mais je préférerais attendre qu'il soit adulte.
Est-ce qu'il y a un moment dans l'ensemble de votre carrière, pas forcément dans ce service-là, où vous vous êtes sentie en danger ?
Alors, je me suis sentie en danger physiquement sur une intervention, oui, à Chartres, parce que Chartres, c'est une petite ville. C'était un dimanche après-midi, et on n'était que 3 policiers dehors. Et on s'est retrouvés à intervenir sur un monsieur qui avait renversé des jeunes en scooter, et ça a pris une ampleur dans un quartier assez difficile, et on s'est retrouvés à 3 entourés d'une centaine de personnes. Donc oui, à ce moment-là, on pense à sa vie. On regarde son arme en disant « pourvu que personne ne l'attrape », et on se dit « est-ce que je vais rentrer chez moi entière ce soir ?» C'est déjà arrivé, oui.
Et pour votre entourage, vous avez déjà eu peur ?
J'ai envie de dire que cette peur, elle n'existait pas il y a quelques années. Enfin, au début de ma carrière, en tout cas, parce que l'image qu'on avait de la police et l'image qu'on avait, nous, policiers, de la population, n'était pas la même. Quand Gabriel a commencé à grandir, avec son papa, on a dit « ne dis surtout pas qu'on est policier ». Alors que quand moi, j'étais enfant, j'étais fière de dire que j'étais fille et petite fille de policier. Tout le temps où Gabriel a été à l'école primaire, ça a été à peu près, à partir du collège, on lui a dit « tu dis pas que papa et maman sont policiers » parce qu'on voyait de plus en plus d'atteintes physiques, de l'entourage de policiers et on voulait protéger notre fils.
Il y a une intervention qui a été plus éprouvante qu'une autre. Alors là, je ne parle pas en termes de danger, pour le coup, mais plus émotionnellement.
Oui, il y a eu une intervention qui a été plus difficile émotionnellement, mais encore une fois, elle était liée à mon âge. Ce n'est pas très beau, ce que je vais dire, mais c'était un suicide par arme à feu. Donc visuellement, c'est très dur quand on voit quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête avec une cartouche de chasse et qu'on a 20 ans. C'est, voilà. Émotionnellement, celle-là, elle a été très difficile parce que ben, je suis rentrée dans un film d'horreur. Alors qu'avant, je les regardais à la télé. Et ça, c'est pareil. Cette confrontation à la mort, on n'y est pas préparé à l'école de police. On nous en parle un petit peu. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend quand on sort de l'école. C'est bien beau, la théorie. On a beau faire quelques stages, il n'y a que la pratique sur le terrain qui vous donne la réelle teneur de ce qu'est le métier de policier.
Vous trouvez que votre personnalité a évolué, que vous êtes endurcie au fil du temps ?
Je me suis endurcie, ça c'est une certitude. Mais pas que. Je suis plus sensible aussi à certaines choses. Je suis plus tolérante pour certaines, moins pour d'autres. Le problème avec ce métier, c'est qu'on rentre dans l'intimité des gens et on est face à une misère sociale qu'on voit certes à la télé, mais qu'on ne mesure pas encore une fois quand on n'est pas confronté à ce genre de problème. Donc fatalement, ça vous endurcit parce que rentrer dans le quotidien des gens, dans la misère sociale en permanence, si on s'endurcit pas, on fait du burn-out, on se sent pas bien. On se suicide, malheureusement, puisqu'il y a des collègues qui se suicident aussi. Hein, et c'est aussi lié à ce qu'on peut voir au quotidien. Quand on dit le suicide est lié qu'à des raisons familiales ou que des raisons de pression hiérarchique, non, faut aussi se mettre à notre place et imaginer ce qu'on peut voir au quotidien. C'est-à-dire qu'à part venir nous observer avec nous pendant un mois, vivre avec nous au quotidien, c'est la seule manière de se rendre compte de ce qu'on vit. J'aurais beau l'expliquer avec plein de mots, l'écrire, je pourrais jamais avoir le mot juste pour dire ce qu'on vit.
Mais vous gardez le même engouement pour votre métier ?
Je garde le même engouement pour mon métier, mais c'est de plus en plus difficile.
Qu'est-ce qui vous fait tellement aimer ce métier ?
Je suis une enfant de la République, j'ai grandi avec des valeurs républicaines. J'ai donc un papa policier, une maman qui était infirmière, qui était investie au quotidien pour les autres. Mon grand-père était bénévole pour Emmaüs, ma grand-mère était investie auprès du Secours catholique. Donc on a toujours eu dans la famille cette tendance à aller aider les autres. Et ce métier-là me permet de continuer à faire ça tous les jours.
Dans votre roman Héloïse, le personnage principal parle de la police en tant que machine à broyer. Vous entendez quoi par là ?
Alors quand j'ai écrit cette phrase-là, je l'ai écrite en tant que policier pour les policiers. C'est-à-dire que la machine à broyer qu'est la police nationale aujourd'hui, c'est envers ses agents. Nous, en tant que policiers, on est pris entre ce qu'on voit au quotidien, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais aussi la pression des statistiques, la pression ressources humaines, la pression management. Donc c'est tout cet ensemble qui est une machine à broyer pour les policiers. Et ce qui fait qu'on a beaucoup, effectivement, de burn-out, de suicides, etc. Et c'est dans ce sens que j'ai mis ces mots dans la bouche d'Héloïse, parce qu'Héloïse, dans le roman, en tant que personnage romancé, me permettait de faire passer un message que je n'ai pas le droit de dire, eu égard à mon devoir de réserve en tant que policier. Maintenant, c'est fait. Si demain l'IGPN toque à ma porte, je saurai pourquoi, Clémence.
Vous voyez une certaine féminisation de la police ?
On a vu plus de femmes arriver grâce aux emplois jeunes. Après, on est environ 20% de femmes depuis des années. Ça n'évolue pas plus que ça. On a beaucoup plus de femmes dans les métiers administratifs, dans les métiers de la police technique et scientifique. Donc forcément, on a une impression qu'il y a plus de femmes. Mais c'est pas forcément une réalité.
Sur le terrain, c'est un handicap, un atout d'être une femme ?
Les deux, tout dépend du type d'intervention, tout dépend du type de personne à qui on est confronté. Aujourd'hui, dans mon groupe d'unité d'enquête, on est 3 femmes, ça pose pas de problème. Par contre, s'il y a des interventions un peu plus musclées, en fonction des profils, je veux dire physiques aussi, hein, des unes et des autres, parce que c'est une réalité, parfois ça peut être un handicap. Mais voilà, un handicap, on peut en faire une force aussi.
Vous avez également exercé une carrière syndicale qui vous a amené régulièrement au ministère de l'Intérieur. Pourquoi cet engagement supplémentaire ?
Ça fait partie de qui je suis et de cet engagement que j'avais auprès des personnes en intégrant le métier de gardien de la paix. J'avais aussi envie de m'investir auprès de mes collègues. Être détachée syndicale me permettait d'avoir une parole plus libre. Et puis au lieu de râler dans mon coin en disant ça va pas, je pouvais aller au ministère ou dans les différentes directions de la police, défendre ces situations et porter la voix de mes collègues. Je pense que c'est dans mon ADN, en fait, de crier contre les injustices et de m'investir pour faire changer les choses.
Et vous avez le sentiment d'avoir fait bouger les choses, justement ?
J'ai essayé. On est dans une société où l'individu compte plus que le collectif. Et malheureusement, ça se ressent aussi dans l'engagement syndical, mais pas que dans la police. Vous allez voir n'importe quel syndicat. Aujourd'hui, quelqu'un vous appelle pour vous dire « Est-ce que tu peux gérer mes congés, ma prime ?» Le collectif n'a plus de sens aujourd'hui. En tout cas, je le cherche dans certains domaines.
Vous restez fière de porter l'uniforme ?
Alors, je travaille en civil, donc c'est compliqué. Je suis fière de mettre mon brassard police nationale. Je suis fière de dire que je suis policier. Et pas policière, parce que moi je le laisse au masculin. Mais oui, je suis fière de dire que je suis policier, je suis fière d'être attachée aux valeurs de la République. Ça, ça change pas.
Pourquoi vous le laissez au masculin, policier ?
Pour moi, le féminisme, c'est pas un débat de mots. Policier, c'est ma fonction, c'est pas qui je suis. Donc pour moi, tout ce qui est rattaché à une fonction, ça doit pas être genré. La fonction ne représente pas la personne. Si je parle de moi, c'est Ophélie au féminin. Quand je parle de moi en tant que policier, c'est ma fonction. Ma fonction ne fait pas qui je suis. Qui je suis, c'est derrière l'uniforme, justement, ou derrière le brassard.
Si on fait un bilan de vos 23 années au sein de la police nationale, vous en retirez quoi, personnellement et plus généralement ?
En travaillant au quotidien auprès des gens, on se rend compte de l'évolution, je pense, peut-être plus que quand on n'est pas dans ce type de métier confronté à la population. Et c'est vrai qu'en 23 ans, j'ai vu les choses évoluer, j'ai vu les enfants changer. J'ai eu des enfants dans mon bureau il n'y a encore pas si longtemps où il n'y a pas de respect des parents qui sont à côté d'eux. Il n'y a pas de respect du policier, il n'y a pas de respect de l'adulte. Et c'est quelque chose qui me choque, parce que même si ça a toujours existé, je trouve que ça prend de l'ampleur. Quand j'ai commencé, dans les quartiers, les jeunes me disaient bonjour. Bonjour la blonde. J'étais blonde à l'époque, j'avais à peu près leur âge, donc et on avait de bons rapports. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonjour. C'est limite, on arrive dans un quartier, c'est l'insulte. On a aussi un problème d'éducation. C'est-à-dire que le respect de l'adulte, le bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, le respect du maître et de la maîtresse n'est pas du tout le même que quand moi j'étais plus jeune. Alors on va me dire, les mentalités ont changé, les choses évoluent, oui, mais pour moi il y a des choses qui ne doivent pas changer. Le respect en fait partie, la valeur famille en fait partie, parce que la famille est pour moi l'un des premiers remparts contre les maux de notre société.
En parallèle de votre activité, vous êtes également auteur. Comment ça vous est venu ?
C'est quelque chose qui, là aussi, coule dans mes veines, puisque j'ai toujours écrit. Quand je faisais des bêtises, j'écrivais des mots d'excuse à mes parents. J'écrivais des poèmes, des lettres d'amour, j'ai écrit un cahier à mon fils. Et un jour, un ami m'a dit « Viens avec moi sur un salon, tu vas voir, tu vas rencontrer des auteurs, c'est sympa ». Là, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Geneviève, qui avait un blog, et qui m'a dit « J'adore tes retours sur Facebook », puisque je faisais mes petits retours sur ma page personnelle, et j'ai intégré ce blog. Et j'ai fait d'autres rencontres, qui ont amené d'autres rencontres. Et un jour, un copain auteur m'a dit « Mais Ophélie, pourquoi tu n'écris pas ton propre livre ? Tes chroniques sont bien rédigées, elles sont bien tournées, on sent qu'il y a quelque chose, t'en as sous la plume, quoi, vas-y, lance-toi ». Et je lui ai envoyé le début d'Héloïse, et il m'a dit « Mais il faut pas que tu t'arrêtes ». Et donc cet auteur, qui s'appelle Alexis Aubenck, que je ne remercierai jamais assez de m'avoir convaincu de poursuivre cette aventure, m'a demandé de lui envoyer l'histoire chapitre après chapitre, et à chaque fois on s'appelait, il me disait « ça va pas ». Et je suis arrivée au bout d'Héloïse comme ça. Et j'ai réalisé ce rêve d'enfant qui était d'écrire un livre.
C'est un roman très noir. Vous abordez la misère sociale sans retenue. Est-ce que c'est un condensé de ce que vous voyez sur le terrain, justement ?
C'est un condensé de ce que j'ai pu voir à une certaine période, quand j'étais au mineur, et j'ai vu plein de choses qui m'ont révoltée. Héloïse aurait pu être une de ses enfants. J'ai besoin de me nourrir de plein de choses, je suis quelqu'un de très curieux. Lire quelque chose de vide ne m'intéresse pas, alors écrire quelque chose de vide, encore moins.
On peut parler de roman engagé, alors ?
Oui, il est engagé d'une certaine façon, et il est féministe sans être misandre, puisqu'il parle de problèmes de femmes sans taper sur les hommes.
Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire ?
C'est une sorte d'exutoire, écrire, et je pense que ça l'est pour beaucoup d'auteurs, parce que passer les messages, ce que je disais, sortir certaines frustrations, sortir certaines colères. Héloïse, c'est un personnage qui est très en colère, et quand je l'ai écrit, j'étais en colère.
Quand vous avez écrit ce roman, vous étiez à un moment compliqué de votre vie ?
J'étais à un moment compliqué de ma vie, des suites du cancer. Hein, et donc forcément, mon fils n'était pas bien, c'était tout un tas de choses qui faisaient que j'étais en colère, et du coup, ça se ressent dans l'écriture.
Aujourd'hui, vous vous sentez plus policière ou romancière ?
Pas plus l'un que l'autre. Je passe autant de temps au travail en tant que policier qu'en tant qu'auteur, entre les salons, l'écriture, etc. C'est vraiment deux métiers à temps plein. Je me sens pas plus l'un que l'autre.
Vous avez le sentiment d'avoir dû faire des sacrifices familiaux pour votre carrière ?
Oui, j'en ai fait en tant que déléguée syndicale, puisque c'est vraiment la période où j'ai été le moins présente pour mon fils. Et je m'en suis voulu, et je m'en veux encore, parce que je suis une maman très empathique et très hyper émotionnelle, même si on dit que c'est un mot à la mode, non, c'est une vérité. Donc oui, je m'en suis voulu de passer plus de temps parfois pour ma carrière professionnelle qu'auprès de mon fils. Et c'est ce qui a engendré aussi notre départ à Paris, pour que je puisse être plus présente pour lui.
Justement, une fois que vous étiez à Paris, tout n'a pas forcément été si simple, puisque votre fils a été victime de harcèlement. Comment on le vit quand on est mère et officier ?
On ne l'a pas vu tout de suite, il n'en a pas parlé tout de suite, c'est dans les changements de comportement qu'on s'est douté qu'il y avait quelque chose. On n'a pas su toute la vérité tout de suite, on a tout su qu'alors qu'il était en seconde. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu en sixième, qui s'est un peu calmé en cinquième, il nous en a donné des bribes. Et nous, on a agi en tant que parents et aussi en tant que policiers. Mais ça a eu un retentissement tel que Gabriel nous a caché beaucoup de choses et on les a appris qu'une fois qu'il a été en seconde, puisque le début de seconde s'est mal passé. Ce qu'il avait vécu en sixième, il entendait « t'es qu'une merde, suicide-toi, tu sers à rien ». Ces mots-là, il nous en a pas parlé. Et quand il est arrivé en seconde, il s'endormait en classe. La CPE nous a appelés, il a vu une psychologue et il nous a expliqué qu'en fait, il nous avait pas tout dit. Et c'est là qu'il nous a révélé un certain nombre de choses. La CPE avec qui on a discuté, elle nous a dit c'est récurrent. Des enfants qui ont été harcelés, surtout au point auquel Gabriel a été harcelé, perdent tellement confiance en eux qu'ils sont incapables après de changer d'établissement ou de lieu ou sans avoir une perte totale de confiance en soi. Donc Gabriel, lui, c'était « de toute façon, je me ferai pas de copains, je vais être rejeté ». Ça a été des périodes très, très compliquées. Donc je crois que nous, on lui a pas assez montré qu'on pouvait être présent sans surréagir, et lui a voulu nous protéger. Le fait que j'ai été malade, Gabriel a été confronté très vite à des choses difficiles, et il a toujours eu peur pour moi. Donc je pense que c'est aussi une façon de me protéger, de pas dire tout ce qui se passait.
Vous avez eu un cancer du sein. En quoi il a changé votre regard sur la vie ?
J'étais un peu chochotte, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, quand j'étais malade, je faisais mon mec, excusez-moi messieurs, mais je suis pas bien, je suis malade, tu peux aller me chercher si, tu peux faire ça. Donc j'avais plutôt tendance à me laisser aller. Après cancer, c'est l'inverse. Je me suis endurcie, je suis devenue dure à la douleur, Je vis plus vite, je vis plus fort, on a tellement peur que ça s'arrête. On prend conscience de sa mortalité, c'est quelque chose de nouveau. À 29 ans, on se dit pas « demain, je vais mourir ». Et quand on en prend conscience, forcément, on dévore la vie beaucoup plus vite.
D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que ça a impliqué ?
J'ai eu la chance d'être très entourée par mes collègues de l'époque. J'étais alors formatrice à l'école de police de Roubaix, ce qui faisait que j'étais pas sur le terrain déjà. Donc je faisais ma séance de chimiothérapie, j'étais en arrêt 15 jours et je retournais au travail pendant une semaine avec ma perruque, avec des foulards. Donc j'ai eu cette chance d'être entourée et de pouvoir continuer à travailler pendant toute la durée des traitements, ce qui m'a permis de pas être coupée socialement aussi. Et je pense que ça m'a aidé grandement à traverser cette période de ma vie.
Vous avez même passé les concours d'officier à ce moment-là, non ?
Je passe les écrits au mois de mars, toute contente, toute fière. Et en juin, alors que je me préparais à ma première chimio, mon père m'appelle et me dit « Félicitations ma fille, tu as les écrits du concours d'officier ». Et là, mon monde s'écroule une deuxième fois parce que c'était un rêve d'être officier. Je voulais être lieutenant Cohen. C'était vraiment pour la fierté de mon papa, pour moi, pour mon grand-père. Ça avait vraiment une grosse, grosse importance. Et j'ai pas pu aller au bout de ce concours puisque les textes ne me permettaient pas d'aller au bout. Dans la mesure où je ne pouvais pas passer le sport, je ne pouvais pas continuer. Même si je suis officier de police judiciaire, je ne serai jamais commandant de police.
Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous avez douté, où vous avez trouvé la marche trop haute, où vous avez voulu renoncer, ou peut-être tout simplement faire quelque chose d'autre ?
Ça fait quelques années que les marches sont de plus en plus difficiles à monter. Pour autant, je continuerai à les monter, je pense, jusqu'à la fin.
De quoi est-ce que vous êtes la plus fière dans votre carrière ?
Malgré tout ce que je vois, je garde mon humanité. Je n'ai pas changé d'avis sur un certain nombre de choses. Oui, je suis fière d'être restée moi-même.
Quel a été votre plus gros défi jusque-là ?
Il est à l'heure actuelle le défi, parce que je suis en service d'investigation là depuis le mois de septembre, j'en avais pas fait depuis 13 ans. Donc c'est se remettre au goût du jour 13 ans en arrière très rapidement. Donc là, c'est un des plus gros défis au niveau professionnel, oui.
Quel est votre prochain Everest ?
Je pense que mon prochain Everest, il sera peut-être littéraire, mais pas policier, ou alors je l'ai pas encore rencontré au niveau police.
Vous avez un mantra qui vous définit ?
Oui, je vais dire que je suis comme le roseau, je plie mais je ne romps pas.
On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Avec votre métier, la voiture peut jouer un rôle différent de celui auquel on pense naturellement. Vous avez déjà fait des planques dans des voitures ou des patrouilles ou des courses-poursuites ?
Quand j'étais à la Sûreté départementale du Nord, on faisait beaucoup de planques, que ce soit à la criminelle ou au stup. Donc on se retrouvait dans ce qu'on appelle les sous-marins. Donc oui, c'est compliqué de passer 24 heures enfermé dedans avec un collègue en disant « je dois aller aux toilettes, comment je vais faire ?» Ne pas se faire repérer. On a un rapport à la voiture, je ne vais pas dire qu'il est charnel dans la police, mais en tout cas, on a besoin de voitures fiables, surtout. Et puis on a besoin de leur faire confiance.
Vous avez appris à conduire différemment avec la police ?
Ah bah alors, je vous mets au défi de rouler en Giro et Deux-Tons à Paris et entre les files de voitures, vous comprendrez pourquoi on apprend à conduire différemment quand on est dans la police. Quand on va en intervention, c'est rapide. Quand on passe au Giro et au Deux-Tons, voilà, quelquefois, c'est des rétroviseurs à quelques millimètres, c'est un passant, on est beaucoup plus attentif et on a une conduite plus sportive aussi.
Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ?
Comme je fais tout en musique, l'appli qui ne me quitte jamais, que ce soit en voiture ou ailleurs, c'est Deezer.
Quel est votre meilleur souvenir en voiture ?
J'étais avec des amis auteurs. On a fait Paris-Belgique parce qu'on était attendu d'un salon parisien sur un autre salon. Et tout au long du trajet, on a chanté des musiques des années 80 et des génériques de films. Donc le trajet qui a fait 3 heures nous a semblé durer une demi-heure. Et c'est un moment merveilleux que j'ai passé avec ma Valentine Clarence Spitz, qui est auteure en Belgique.
À l'inverse, quel est le pire moment que vous ayez passé en voiture ?
Une nuit à dormir sur une aire d'autoroute suite à un problème de batterie avec ma petite voiture. C'était à Rouen, j'ai dormi toute la nuit dans la voiture, j'étais congelée. Mon père a dû venir me chercher Dunkerque-Rouen pour pouvoir me dépanner.
Finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez des podcasts ?
Un peu des trois. Quand je suis sur l'autoroute et que tout le monde roule à droite comme on devrait rouler en France, ça va. Quand il y a du monde au milieu, je m'énerve. Mais je peux aussi chanter à tue-tête un feu rouge.
Et pour finir, comme le veut la tradition de Paroles de Femmes, Ophélie, on part en road trip. Où est-ce que vous nous emmenez ?
En Europe du Nord, je rêve de visiter l'Europe du Nord et j'ai prévu d'ailleurs de faire un road trip avec mon fils pour ses 18 ans et mes 45 ans. Donc on va se louer un petit van et puis on va partir tous les deux. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il passe son permis.
Ophélie, au revoir et un grand merci pour ce moment intrépide.
Merci à vous Clémence et à bientôt.
C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leur victoire comme leurs doutes. Parole de femmes.